c'est bon pour la santé.
Notre prochaine invitée est une femme de jeu. Et c'est pour ça qu'on la retrouve dans toutes ses déclinaisons, du théâtre au cinéma et très souvent à la télé. On reçoit la femme de l'écran, mais aussi de la famille, Geneviève Rioux. Elle a marqué l'imaginaire dans le déclin de l'Empire américain, a évoqué de manière durable dans nos esprits la femme de la justice sociale au Québec, Simone Monet-Chartrand. Mais peu de gens savent qu'elle scénarise de plus en plus, et même qu'elle est devenue passeuse, selon sa propre expression, voire professeure de jeu. Si la famille est centrale dans sa vie, la santé se manifeste par la préparation des repas avec sa fille et l'accompagnement de son père aussi, pris par l'Alzheimer. L'art est une réponse pour Geneviève Rioux et c'est ce qui nous a inspiré cette émission. En présence de Geneviève Rioux, on échangera avec Lise Lalande, directrice générale, Société Alzheimer Laval, sur le programme Music and Memory. Aussi avec Jean Lambert, ex-président de la Chambre des notaires sur la maltraitance notamment. On reçoit cette femme qui est dans la famille de bien des gens au Québec. C'est bon pour la santé de Geneviève Rioux.
Bonjour Geneviève Rioux.
Bonjour Catherine.
On est vraiment honorés que vous soyez avec nous. Le jeu fait partie de votre vie. Est-ce qu'il y a un lien entre jouer un rôle et la mémoire du rôle qui reste par la suite dans notre corps? C'est une question que je me pose.
Oui, c'est intéressant. En fait, il y a des personnages qui sont très près de nous. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin de recherche. On dirait qu'il y a quelque chose qui connecte directement. Et il y a des personnages aussi qui sont sont très loin de nous et qu'il faut aller chercher. Il faut aller les chercher en soi, bizarrement.
Parce que je sais que vous avez joué, par exemple, en 2005, plusieurs rôles, mais en 2005, vous avez joué une femme qui avait des gros problèmes de jeu dans Casino. Ça avait été rédigé, notamment, cette série, par Régent Tremblay. Est-ce que vous m'aviez dit antérieurement que vous étiez dans un bateau et puis il y avait comme un mini-casino et là, vous avez été éprise d'une crise d'angoisse, mais c'était la mémoire du rôle que vous aviez joué qui est revenu par la suite. C'est étrange, quand même.
C'est étrange, oui. Je pense que Casino, c'est le personnage le plus loin de moi que j'ai jamais fait. C'est une femme qui, donc, c'est une toxicomanie, hein, le jeu, comme les drogues, l'alcool et tout. Et cette femme-là était une grande malade. Elle allait jouer la nuit pendant que ses enfants étaient seuls, quand le mari était parti en voyage. Son mari voulait lui enlever la garde des enfants. Elle était dans un désarroi, elle était perdue. Et il fallait que j'aille dans une démesure, quelque chose qui ne me ressemble pas beaucoup. Moi, je rentre dans un casino, au bout de 10 minutes, j'en ai assez, ça m'ennuie, je trouve ça, il y a des bling-bling et tout et tout. Mais ça m'a intéressée et je me suis rapprochée du personnage à partir du moment où je suis allée rencontrer des joueurs, des anciens joueurs et des endeuillés du jeu. Et bon, c'est ça, il y a une femme qui m'a raconté qu'elle, quand son mari est mort, il s'est suicidé, comme souvent, elle a découvert que sa maison, leur maison, ne leur appartenait plus depuis 15 ans. Ils l'avaient perdue. Et elle avait le droit d'y rester parce que, bon, les espèces d'escrocs autour, parce qu'il y a tout un monde de criminalité autour de ça, lui avait permis de rester, mais elle avait perdu tout, y compris sa maison. Alors moi, je me suis dit, comment ça peut arriver un truc comme ça? Et c'est en parlant avec des ex-joueurs et tout ça que j'ai compris toute cette douleur. Il fallait que je connecte avec cette douleur-là. Et je pense que j'y suis arrivée parce que je me suis mise dans des états quand même assez terribles. Et comme tu disais, ce que je t'ai raconté, j'étais sur un bateau l'été d'après avec les enfants en famille. On est bien, on est en congé, tout le tournage a bien été, on est heureux et tout. Et c'est les mélodies de, tu sais, les machines à jeu, là, ding, dong, ding, 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 ding. Puis, alors, je suis passée au travers et j'ai vu la luminosité des machines. Et là, j'ai fait une crise d'angoisse. Mon corps s'est comme resserré. J'étais plus capable de respirer. J'étais très, très, très mal. Je voulais juste aller à la toilette.
Mais c'est...
Et je me suis aperçue que Moi, dans mon conscient, c'était tout clair. Quand je sortais des journées de tournage, je mettais de la musique brésilienne. J'essayais d'évacuer tout ça. Mais mon corps, lui, avait enregistré que c'était très dangereux, ces bruits-là et cette luminosité-là étaient un danger réel dans mon corps.
Mais c'est intéressant, Geneviève. Vous avez pris donc ce rôle très à cœur. Vous, docteur Baruel, est-ce que ça arrive fréquemment chez les comédiens de prendre à cœur son rôle et par la suite en avoir, le mot séquelle est un peu gros, là, mais des répercussions.
C'est pas très loin, parce qu'en fait, c'est chez les acteurs, je ne sais pas très bien si chez les acteurs ça arrive, mais en tout cas, ça me rappelle une méthode de traitement des mauvais souvenirs, qui sont en fait des patchs de bons souvenirs qu'on peut se mettre dans la mémoire, dans l'hippocampe. On arrive à s'imaginer dans une situation qui était désagréable et on vous propose d'imaginer cette même situation, mais agréable. Et vous en profitez.
Une forme de désensibilisation, peut-être.
Exactement. En fait, c'est presque un patch de mémoire qu'on met sur sa propre mémoire existante. Donc, on se retrouve avec une mémoire supplémentaire. Et moi, ça me fait penser à ça, en fait. Mais le seul problème, c'est que chez vous, c'est un très mauvais épisode. Du coup, c'est douloureux quand vous le retrouvez.
Oui, mais ça a duré, je pourrais dire, ça a duré une minute.
Bien sûr, mais vous l'avez retrouvé et ensuite
oui,
vous l'avez contrôlé.
J'ai compris. En fait, c'est parce que j'ai compris. Si je n'avais pas compris d'où ça venait, que j'aurais... Et aussi, un peu un truc contraire, j'ai joué Célimène dans Le Misanthrope, un rôle formidable. Célimène, c'est le summum de la séductrice. Elle est veuve, donc elle est libre, elle a des amants et tout et tout. Et je devais jouer une femme, une conquérante, une séductrice suprême. Sauf que je suis tombée enceinte à la fin de répétition. Et mes hormones m'ont joué des tours. Je suis devenue protectrice.
Oh, les hormones!
Et je voulais... C'était comme j'avais du mal à jouer tout le côté Don Juan. C'est comme si... Puis il y avait un moment où il y avait des éclats de colère et je me souviens d'avoir inconsciemment, c'est pas voulu, mais mis la main sur mon ventre parce que j'étais en défensive. Geneviève devenait une lionne et disait, laisse pas trop de place à Célimène parce que toi, t'as quelque chose de plus précieux encore. Et c'est dommage, c'est juste dommage parce que Célimène est un rôle fantastique et je considère que je ne l'ai pas joué dans sa plénitude parce que mon corps m'a donné des ordres. Contraire! C'était au TNM, c'était un beau show, mais...
Geneviève Rioux, vous avez incarné plusieurs rôles dans votre vie, dont le célèbre rôle de masseuse dans Le déclin de l'Empire américain.
Oui.
Vous étiez si belle habillée en geisha. Est-ce que vous êtes tannée qu'on vous parle de cette scène mythique?
Pas du tout.
Non?
Non, parce que j'ai eu la chance de ma vie, vraiment. C'est Denis Arcand est un scénariste génial. Et moi, c'est Francine Grimaldi dans un petit article de la presse qui dit « Denis Arcand va avoir un nouveau projet, c'est des universitaires ». Puis à ce moment-là, Denis Arcand était très, très prisé des maniaques du cinéma, mais pas du grand public. Mais moi, j'avais des parents cinéphiles et je connaissais l'œuvre de Denis Arcand. Alors, j'ai juste appelé à l'ONF, je sortais du conservatoire, je suis une jeune actrice, parce que je me disais, c'est dans le milieu universitaire, il va y avoir des étudiants. J'avais tout à fait le casting. Alors, j'ai fait « Ben, en tout cas, si vous avez des auditions », ils m'ont appelé, j'ai auditionné. Et puis, je l'ai eu.
Puis, vous avez aussi incarné Simone Monet-Chartrand, une femme de grand cœur. Est-ce qu'elle elle sommeille encore un peu en vous, cette femme-là?
Ah oui, la maman, mère. Oui.
Votre mère était infirmière aussi.
Elle a été infirmière. C'est pas son choix premier à l'époque. Hein. Les femmes n'étudiaient pas beaucoup, mais elle avait quand même réussi. C'était une petite brillante. Puis, dans ce temps-là, tu pouvais étudier comme infirmière et gagner ta vie en même temps. Donc, elle pouvait continuer à étudier. Mais elle, c'était plutôt l'histoire de l'art. Ensuite, quand elle était un petit peu plus libre...
Votre mère était donc dans le milieu médical. Est-ce que vous avez hérité des qualités d'une infirmière comme votre mère?
Pas du tout.
Non? Vous avez cette compassion quand même pour incarner les rôles.
J'ai la compassion, mais je ne pense pas que j'ai les nerfs. C'est quand même... Il peut se passer toutes sortes de choses dans un hôpital, là, quand même.
Et qu'est-ce que... La santé des femmes, ça, qu'est-ce que vous pensez de la santé des femmes en 2018?
Ben là, j'ai lu quelque chose ce matin par rapport aux maladies du cœur qui augmentent de façon exponentielle chez les femmes. Et elles meurent plus facilement de manque de soins à la suite des opérations ou des traitements. Et je suis un petit peu... Enfin, je suis complètement à l'envers de ça. Et il me semble que j'avais 20 ans, on dit que c'était les hommes qu'on surveillait. Puis semble-t-il que les recherches ont été faites presque seulement sur les hommes qui avaient des problèmes de cœur. Alors, ça m'inquiète, ça.
Oui, mais en fait, oui, je vais vous donner tout de suite la parole, mon cher docteur Baruel. Il faut dire que les signes précurseurs d'une crise cardiaque passent inaperçus chez 78% des Canadiennes. Et les maladies du cœur emportent une Canadienne toutes les 20 minutes. Mais c'est horrible. On pense qu'avant, les crises cardiaques, c'était chez la gente masculine. Mais on est encore plus à risque que les hommes ou quoi?
Mais ou non? Pendant un certain temps et jusqu'à pendant un petit moment, à cause des hormones, jusqu'à la ménopause, en fait, les femmes sont quand même assez protégées. Les hommes font des infarctus du myocarde à partir de l'âge de 55 ans environ, et les femmes, c'est 65-70 ans. Le problème, c'est que, d'une part, elles fument plus.
Les femmes fument plus?
Oui, elles se mettent à fumer.
Je savais pas.
Et du coup, si l'on connaît le risque du tabac, hein, c'est évidemment c'est la première cause, bien sûr. Et puis, deuxièmement, c'est en effet beaucoup plus grave parce que la plupart du temps, on ne sait pas ce que c'est. Ce ne sont pas les mêmes symptômes que chez l'homme. Ça peut être aussi bien une fatigue brutale, ça peut être une douleur juste sternale entre les seins, ça peut être une douleur abdominale, une douleur juste dans le dos, mais isolée, ou ça peut être une crise d'anxiété, ça peut être... des choses bâtardes.
Je vais prendre un verre d'eau, là.
Bâtardes. Mais Catherine, vous n'avez pas l'âge.
Vous seriez surpris.
Vous n'avez pas l'âge encore, okay. Catherine. Voyons.
Non, mais donc, c'est ça, mais c'est vrai que c'est une problématique qui est intéressante. Geneviève, aussi, votre père, depuis 10 ans maintenant, est Alzheimer. Et ça arrive, quand ça arrive, là, c'est...
Et oui, puis c'est mon papa aimait beaucoup, beaucoup lire et c'est la première chose à peu près qu'il était obligé d'arrêter de faire. Mais ce qui était très beau, c'est que pendant des années, là, ça fait 10 ans donc qu'il a l'Alzheimer, mais les premières années, il continuait à prendre des livres et un marqueur jaune et il marquait. Sans pouvoir lire, mais c'est un geste qui le rassurait. C'est vraiment fascinant.
Est-ce que ça a changé sa personnalité? Est-ce qu'il était le même homme avant la maladie que pendant la maladie?
Ben, pour ma part, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai eu les meilleures années avec mon père quand il était atteint depuis 2 ou 3 ans. Parce qu'il y a eu quelques années où l'homme fier, mon père c'était un intellectuel, c'est quelqu'un qui a été longtemps dans les pensionnats, alors c'était pas non plus un bavard, c'était pas un chaleureux, tout ça. Et en fait, je dis ça, puis j'ai découvert que non, c'était en fait un homme très... qui apprécie beaucoup... Et dans ces années-là, ces merveilleuses, à peu près 3 années-là, on faisait juste marcher dehors, on marchait beaucoup. Et puis, c'était, oh, regarde l'oiseau, regarde le nuage. Oh, on est bien. Oh, t'es gentil d'être venu. On va aller au jardin. Il y avait une espèce de sensualité aussi, de rapport à la vie terrestre. On allait manger, je pouvais l'amener au restaurant. Ça se faisait très bien. Et il goûtait la vie comme jamais. Maintenant, après 10 ans, on est dans une autre phase. Ouais.
Merci Geneviève.
Les jours et les saisons, la couleur de mes yeux, les paroles des chansons, celles qu'on chantait à deux, le chemin de ta maison, comment se maquillent les yeux, la fête de tes enfants. tes souvenirs d'avant. Tu sais, je verrai sur eux, je les rattraperai au vent. Je te raconterai si tu veux. Je nourris des ficelles, des souvenirs qui s'étialent. Et le jour où ils s'envoleront, moi j'en ferai des cerfs-volants. Mais oublie pas mon nom.
Geneviève, ça va vous intéresser car nous allons continuer notre émission avec une entrevue de Madame Lise Lalande de Alzheimer Laval sur un programme de étonnant pour combattre l'Alzheimer avec de la musique. Mais après, on va vous demander à la place du stéthoscope de nous lire un texte d'un de vos rôles. Donc nous sommes avec Madame Lise Lalande qui est directrice générale de la région de Laval, Société Alzheimer.
Bonjour.
Bonjour. Est-ce que, pour le moment, c'est une maladie qui est dégénérative?
Oui.
L'Alzheimer.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des moyens de ralentir la progression?
C'est certain qu'en se conservant en meilleure santé, en faisant travailler notre cerveau, on peut aider à ralentir la maladie, mais il n'y a rien en ce moment qui peut vraiment ralentir efficacement la maladie.
Alors, on ne peut faire que de la stimulation, finalement.
Oui. Exactement. Ouais,
c'est ça. Et c'est pour ça que vous avez développé Music and Memory, excusez-moi mon accent. Qu'est-ce qui vous a convaincu de le faire, ça?
C'est que j'ai vu un soir à la télé un documentaire qui s'appelle Alive Inside, où on parlait justement des bienfaits de ce programme qui a été mis au point aux États-Unis. Alors, et j'ai été absolument emballée de voir que ça pouvait vraiment réveiller quelqu'un. Ramener une personne à être capable de parler, de donner des informations sur sa vie, et puis d'apporter bien sûr beaucoup de plaisir aux gens. Alors je suis retournée au bureau le lendemain en disant à mes collègues, j'ai vu quelque chose de formidable hier, et puis ils m'ont dit, on a déjà deux intervenantes qui font quelque chose de similaire. Ah. Alors, j'ai téléphoné à Dan Cohen, qui est le fondateur de Music and Memory aux États-Unis, pour en apprendre plus. Et on est devenu certifié du programme Music and Memory. On était la première ressource au Québec à être certifié Music and Memory.
C'était quand?
C'était il y a déjà 3 ans et demi.
Ah, d'accord, oui.
Ouais.
Et qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe?
Alors,
enfin, les étapes?
Oui, ben, le principe de Music and Memory, c'est très, très simple. C'est d'apporter à la personne atteinte la musique qui lui est significative. Alors, c'est pas mon père aime Gilbert Bécaud, on va télécharger dans un petit appareil tous les albums de Gilbert Bécaud. C'est vraiment pas ça. C'est d'apporter la crème de sa musique. Alors, une musique qui lui rappelle son mariage, des événements importants, une musique sur laquelle il a aimé danser. Et c'est ça qui fait le déclic chez la personne. C'est que c'est une musique qui lui allume.
C'est ça, ce sont ses chansons,
oui,
sa musique à lui.
Exactement, sa musique à lui. Moi, j'ai vu chez moi un monsieur qui venait d'Haïti et qui avait, il était jeune, affecté au début de la cinquantaine, et qui avait une énorme difficulté motrice. Il avait vraiment de la difficulté à marcher. Ça pouvait lui prendre un bon 5 minutes là, de faire 15-20 pas. Et il a dansé une samba devant moi.
Ah oui?
Parce qu'il écoutait sa musique. Et je savais, j'avais vu, j'avais constaté ce que les bienfaits de la musique pouvaient faire au niveau de l'anxiété, de la bonne humeur, de la communication. Mais physiquement, ça m'a jeté à terre. J'en revenais pas, que ça pouvait avoir un effet comme ça. Mais après ça, je me suis mis à dire, c'est vrai que, est-ce qu'on pourrait faire un programme rigoureux d'exercice physique sans musique? Presque pas. Ouais. Ça nous prend de la musique pour nous accompagner dans nos mouvements. Alors, c'est la même chose. Et on le sait que la musique a une incidence sur, parfois même sur notre conduite automobile. Si c'est une pièce qui est trop enlevante, on a tendance à aller un petit peu plus rapidement. Alors, et c'est très vrai qu'on n'aurait pas de... On danserait pas sans musique. Alors, c'est ce qu'on a vraiment mis de l'avant chez nous, là, c'est d'apporter la musique à ces gens-là.
Est-ce que dans certains cas, il serait possible de leur créer une musique quand ils sont malades, déjà?
Oui, absolument. D'ailleurs, à la Société Alzheimer, les gens qu'on accompagne, ils sont déjà diagnostiqués, ils ont déjà quand même suffisamment de pertes cognitives. Mais alors, on va se fier un petit peu à ce que l'entourage va nous dire. Si la personne ne peut plus communiquer ce qu'elle aime... Et il y a des moyens aussi. Alors, on va y aller par l'âge. C'est quelqu'un qui s'est marié en 1942. Qu'est-ce qui était populaire comme musique en 1942? Alors, on va aller voir, ben, c'est en 1942, il y avait telle ou telle chanson qui était populaire.
Si ça allume.
Et c'est ça. On fait entendre la musique à la personne.
D'accord.
Et on voit si dans les yeux, il y a une lumière. Alors là, on dit oui, celle-là, elle mérite d'aller dans le iPod.
Mais avant, est-ce qu'il est possible de leur créer une chanson pour eux, ou est-ce qu'il est possible de leur donner une chanson qui va devenir quelque chose de thérapeutique? Est-ce qu'on peut l'inventer, ça?
Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a eu des recherches sur ça, mais l'idée, c'est d'aller rechercher un moment dans leur passé. Et exactement. Et pour le réveiller, c'est quelque chose qu'ils ont déjà entendu, qu'ils ont déjà aimé.
Oui, d'accord. Oui, mais c'est-à-dire donc c'est un petit peu tard et on ne peut pas leur créer malgré
la nouveauté,
répétition.
C'est difficile
parce
pour
que
eux.
J'avais la notion que justement on arrivait à créer des choses comme ça, notamment avec des chorales, lorsqu'il y a un début d'atteinte avec des chorales, avec de la musique qu'on leur répète
c'est
plusieurs fois,
possible.
Ça permet d'avoir un stimuli.
Ils aiment chanter, mais ils vont chanter des chansons qu'ils connaissaient.
C'est ça.
Mais Geneviève, vous faites écouter de la musique à votre père?
Oui, moi, maintenant, il est rendu à l'étape où il y a des crises d'agressivité. Mm-hmm. C'est très difficile à vivre.
Ouais.
Mais il y a certaines musiques, moi, je mets Eric Satie, les gymnopédies, et automatiquement, je l'assois. Et là, et souvent, il s'endort là-dessus et il est bien.
Ouais.
Donc, il faut faire comme en direct de l'univers, mais pour nos propres parents, c'est-à-dire sélectionner des pièces. Puis des fois, s'ils sont agités, une pièce tranquille. S'ils sont un peu endormis, on peut mettre une pièce qui a un petit peu plus de tempo. Mon père, c'était pas trop samba, mais peut-être Mozart. Mais mon père aimait Sostakovich. Alors moi, les symphonies, je suis pas capable. Alors, je lui mets des choses un petit peu plus douces.
Madame Lalonde, comment est-ce qu'on peut participer?
Ben en fait, le principe est très simple. Hein? Alors, on peut tout d'abord s'informer.
Oui.
Entre autres, si vous allez sur Google, il y a un petit clip vidéo. On a juste à écrire dans l'engin de recherche Henry, H-E-N-R-Y, Music and Memory. Et là, il y a un petit clip là, de ce que va donner comme résultat l'écoute de la musique à un monsieur qui ne communique pas et qui est vraiment très, très, très avancé dans la maladie. Et puis, bien sûr, communiquer avec une société Alzheimer régionale, il y en a dans 20 régions du Québec, qui vont pouvoir vous diriger sur comment on peut mettre en place. Mais c'est très simple, ça demande un petit appareil, des écouteurs. Mm-hmm. Et puis, bon, il y a des petites informations techniques, là, question d'éviter les problèmes. Là, pour,
en fait, vous apprenez donc aux parents de la personne à retrouver et à envoyer, donner la musique qu'il faut.
Exactement.
Faire un palmarès, hein, le best-of de la personne.
Oui, d'accord, oui. Je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres programmes qui sont similaires au Québec?
C'est certain qu'il y a la musicothérapie traditionnelle où les gens vont bénéficier d'une animation musicale en groupe, mais ça n'affecte pas de la même façon les personnes. Alors, on ne les réveille pas de la même manière.
D'accord.
On parle d'Alzheimer, mais oui. Est-ce que ça peut fonctionner pour d'autres maladies?
Oui.
Le cancer ou je ne sais pas? J'ouvre ça.
Oui, effectivement, il y a des gens qui... il y avait un monsieur, entre autres, qui avait besoin de dialyse et n'arrivait jamais à terminer son traitement parce que lui, au bout d'une heure ou deux, d'être assis là, coincé au même endroit, il se décrochait. Il disait « Non, je suis plus capable et j'arrête ma dialyse. » Et en écoutant sa musique, il est capable de faire le traitement au complet. Des gens aussi qui sont jeunes, des accidentés, qui sont vraiment prisonniers de leur lit. Et puis tout d'un coup, il y a du bonheur à entendre notre musique pour tout le monde.
Mais oui, tout à fait.
C'est bon pour tout le monde.
Mm-hmm. C'est très intéressant. C'est très, très bon, en effet, pour beaucoup de maladies, finalement.
Et pour la vie en général.
Mais oui, bien sûr. Merci beaucoup, Madame Lalonde.
Plaisir.
Merci.
Un vrai plaisir. Merci.
Merci.
Stéthoscope.
Le stéthoscope d'aujourd'hui ne va pas être médical purement. En fait, nous avons demandé à notre invitée Geneviève Rioux de lire un texte de Simone Monet-Chartrand à propos de la famille d'aujourd'hui. Allez-y.
La famille québécoise, longtemps homogène, traditionnaliste, nationaliste et catholique, expérimente depuis plus de 30 ans des apprentissages sociaux nouveaux. À la recherche de plus de liberté, les opinions et les comportements des citoyens de tout âge se sont grandement modifiés. Les deux dernières générations, je suis grand-mère d'un grand-petit-fils de 27 ans et d'une grande fille de 20 ans, envisagent avec audace, mais difficulté, un remaniement des valeurs, des modes de vie concernant la sexualité, la carrière, la culture et l'action sociopolitique. Les difficultés quotidiennes vécues et parfois subies actuellement par des conjoints, couples unis ou séparés, familles monoparentales, reconstituées, élargies, nécessitent un temps de réflexion et exigent parfois de nouvelles attitudes, tant chez les personnes que dans l'ensemble de la société. Les ministères de la Santé, de l'Éducation, du Travail, du Revenu et autres doivent être soucieux des nouvelles réformes pour répondre aux besoins et aux droits de la famille québécoise où l'homme n'est plus la seule autorité. Toutefois, je tiens à signaler l'apport essentiel des groupes populaires à l'avancement de la famille québécoise, les centres de femmes, la Fédération des femmes du Québec, AFEAS, etc. Le noyau familial vit sous un ciel variable. Il n'en demeure pas moins que c'est à l'intérieur du foyer que se nouent les liens affectifs essentiels à l'équilibre mental et psychologique des personnes tout au long de leur vie. Grand-mère de 9 petits-enfants, je considère que c'est ce que j'ai réalisé de plus valable. C'est la création et la mise au monde de 7 personnes qui, devenues adultes, sont mes meilleurs amis. Les échanges d'opinions et de services, les encouragements à réaliser des projets, la confiance réciproque consolident les liens affectifs. Je tiens à leur transmettre ainsi qu'au public, par le moyen de la communication verbale, voire même de l'écriture, les expériences heureuses et valorisantes vécues avec conviction en famille, loin de l'opportunisme mercantile, de l'ambition effrénée, des pouvoirs égoïstes, au cœur même de la vie. Toujours à la recherche d'une sérénité et d'une harmonie, malgré les orages, les membres affectueux d'une famille demeurent compréhensifs, solidaires, en marche vers une terre des hommes, où les plaisirs des sens, de l'esprit, du cœur s'harmonisent et créent une joie de vivre, de survivre, en route vers le 21e siècle.
Bravo!
Bravo, merci beaucoup, c'est magnifique.
Elle n'a pas survécu au 21e siècle, mais bon.
Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand, for the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing.
Nous sommes avec M. Jean Lambert, qui est notaire et ex-président de la Chambre des notaires du Québec, à propos de la bien-traitance et de la maltraitance, notamment des patients qui sont atteints d'Alzheimer. Donc moi je suis médecin, vous êtes notaire, donc nous sommes tous les deux à peu près du même bord, si on peut dire. Nous recueillons les mêmes confidences.
Disons que nos professions remontent loin.
Oui, elles remontent très loin, c'est vrai. Ce n'est pas les plus vieilles du monde, mais pas loin. Est-ce qu'on pourrait parler de la bientraitance des aînés?
Oui, absolument. D'ailleurs, au niveau des cours de formation que la Chambre des notaires donne aux notaires, le sujet maintenant revient. Mais évidemment, les notaires connaissent la maltraitance financière parce qu'ils ont l'occasion de voir des situations dans leur bureau. La classique, évidemment, est celle du testament de ma tante ou de mon oncle que le neveu ou la nièce, évidemment, voudrait bien voir en leur faveur. Alors, si on considère que la maltraitance financière, c'est de loin la maltraitance la plus présente, c'est 37 % des cas qui ont été repérés l'année passée sur les 20 000 appels que je ne sais pas si c'est Dura ou d'autres organismes, mais il y a eu une vingtaine de milliers d'appels l'année passée et l'abus financier, la maltraitance financière.
37
%? 37 % et dans 80 % des cas, c'est un membre de la famille qui maltraite et qui abuse. La maltraitance psychologique est la deuxième.
Donc, c'est très impressionnant que 37 %, mm-hmm. 37 %, dont 80 % de la famille, cherchent à gruger, à voler.
C'est-à-dire que c'est un membre de la famille. C'est rare que c'est la famille au grand complet. D'ailleurs, c'est toujours une source de tension et d'agressivité à l'intérieur même des familles. En fait, le scénario, c'est tout d'abord, ça débute par un mandat de protection qui est donné à un neveu, une nièce. Généralement, des personnes qui n'ont plus d'enfants ou n'en ont jamais eu, seules puis conjoints. Et donc, on s'en remet à des neveux ou une nièce qu'on pense bien correct. On ne peut pas s'imaginer que la parenté pourrait avoir les doigts longs dans le compte de banque, mais malheureusement, ça arrive. Alors, ce qui arrive, c'est que les autres membres de la famille voient les choses. Il y a de la tension, ils veulent avoir des redditions de compte. Celui qui les met dans le plat ne veut rien donner. Il dit, je ne vais pas vous rendre compte, rien m'oblige à ça. Donc ça, c'est une source de malaise au sein des familles. Mais pour la personne maltraitée, c'est dramatique.
Mais est-ce que vous avez la possibilité, avec toute votre expérience qui est grande, de voir arriver le neveu avec les doigts longs, comme vous dites?
Oui.
Vous le sentez venir?
Ah, absolument. Ça commence au téléphone.
Ouais.
Ah, on vous dit, bon, ma tante veut, ou bon, etc. On vous dit, ma tante, pour les fins de l'aide.
Ouais.
Alors, bon, on prend quelques notes. Mais là, j'avise tout de suite, parce que généralement, c'est cette personne-là, disons le neveu, qui amène ma tante dans notre bureau.
Oui.
J'ai déjà au téléphone mentionné que je dois être seul avec la personne, donc qu'il devra attendre dans la salle d'accueil. Et c'est là qu'on voit, évidemment, que là, la personne commence à se dégeler un peu, puis commence à dire, vous savez, notaire, c'est pas tout à fait ça. Quand ils sont en présence, des fois, ça arrive pour autre chose, puis là, finalement, ça dérape là-dessus. La façon de voir, c'est que la personne se regarde les mains, elle ne nous regarde pas, elle est très renfermée. Mmh, et parle, elle ne regarde pas le notaire, mais elle regarde la personne qui l'a amenée pour voir si elle a son approbation.
Donc, vous lisez dans le corps même des intervenants.
Est-ce qu'elle dit, là, c'est bien ce que l'autre veut avoir? On comprend, parce que le retour se fait dans la même voiture.
Bien sûr.
Alors, évidemment, pour nous, ça pose un problème que, généralement, on va contourner en disant à la personne, bon, écoutez, on a pris des notes. D'ailleurs, de toute façon, le scénario, c'est qu'on leur dit qu'on ne règle pas ça à la première rencontre, qu'il en faudra une deuxième. Et là, lorsqu'on est seul avec la personne et qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment une possibilité d'abus, dans certains cas, je dirais, dans la plupart des cas, les gens s'en rendent compte. Un certain nombre sont très au-dessus, ils sont débranchés de ça, ce qui arrive avec vos comptes de banque, bon, ça leur chauffe.
Oui.
Mais la plupart des autres s'en rendent compte un peu parce qu'ils voient des choses chez le neveu ou la nièce qui en prend soin, puis là, ben, ils ont honte. Hein? C'est une question de famille. Tu parles trop?
Non, je trouve ça super intéressant. J'ai une question d'ailleurs qui me vient spontanément. Mm-hmm. Des fois, on est aux prises avec un parent malade. Est-ce qu'on n'a pas tendance de dire de lâcher prise en disant ben, s'il veut tout l'argent qu'il prenne? C'est pas une attitude qu'on a des fois par dépit parce qu'on est trop fatigué, on est épuisé.
Oui,
ça se peut-tu?
Je dirais de guerre lasse.
Oui, hein, ça arrive
comme
aussi.
Expression. Certain que ça doit arriver, mais nous, notre rôle, c'est d'empêcher que ça se fasse. Évidemment, en autant qu'on ait mis on est mis au contact de la situation en temps utile. C'est sûr que lorsque la personne est maintenant dans le coma, ben là, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire ou qu'elle est tellement en fin de vie que là, on ne peut plus intervenir. On causerait d'ailleurs un stress additionnel. Hein.
Mais quand vous l'avez fait, quand vous avez fait les blitz, quand vous avez, tout a été signé et que vous vous rendez compte de la chose, est-ce que vous avez des moyens de protéger la personne?
Bon, d'abord, évidemment, c'est avant que ça signe.
Vous voulez dire, mais une fois que c'est signé.
Si, par exemple, le cas le plus fréquent, c'est les fameuses procurations qu'on signe sur le comptoir de la banque ou de la caisse populaire. Parce que là, il n'y a pas de tiers vraiment qui interviennent. La personne de l'institution financière veut être serviable, puis oui, bon, on comprend. Mais ça, cette procuration-là donne accès au compte. Au mandataire. Et c'est très dangereux qu'il n'y ait pas un deuxième, qu'il n'y ait pas un contrôle. Nous, on dit aux gens, signez pas ce genre de procuration-là à votre institution. Venez nous voir plus tôt, on va vous faire un mandat où effectivement, on va mettre d'autres personnes de la famille dans le coup.
Alors, vous considérez que deux personnes, c'est mieux?
Ah, absolument. Au moins. Absolument. Ou une des deux, mais l'autre doit vérifier. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait le pouvoir de poser des questions. Oui. La plupart du temps, le problème, c'est que celui qui a un mandat de protection seul, il dit, moi, en vertu de la loi, je n'ai pas à vous rendre compte. Et c'est vrai. Alors, donc, on comprend qu'en mettant un deuxième, là, il faut qu'il y ait une reddition. L'autre est en position légale de poser des questions. Et c'est ça devient... Les scénarios sont à peu près toujours les mêmes. Hein.
Les maltraitances les plus fréquentes actuellement, c'est quoi?
Ben, on m'a dit qu'également, parce que je participais avec un forum, c'est les psychologiques. Là aussi, également, ça, c'est pas mon... c'est pas le domaine de ma compétence, mais ce qui arrive, c'est souvent des conséquences de la première. On a honte, on n'ose pas le dire, on a une détresse... on est déçu de voir qu'un membre de la famille en prend large avec son argent. On se sent pas assez fort pour résister. Donc ça fait partie beaucoup de la maltraitance psychologique. Évidemment, il y en a d'autres, là, ça peut aller plus loin, mais ça n'a rien nécessairement à l'argent. Mais par exemple, un aîné qui aurait tendance un peu à tenir tête, mais qui n'a plus d'environnement, qui est un peu à la merci d'une seule personne. Là, c'est le conflit aussi qui se développe, puis... Alors, la personne se sent un petit peu au bout de la ligne, sans autres ressources. Ça aussi, c'est une source de détresse énorme.
Si vous dites qu'il y a 37 % des cas que ça arrive, maintenant qu'on vous a avec nous, on est privilégiés, est-ce qu'on peut faire quelque chose préalablement? Comment savoir qui sont les gens autour qui sont dans la famille? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire concrètement?
Le problème, c'est qu'il s'agit d'affaires privées. C'est là qu'est la difficulté. C'est qu'au départ, ce que vous avez dans votre compte, vos relations d'affaires, la personne avec qui vous avez confiance, vous l'avez donné, ça vous regarde. Et on n'a pas le droit d'aller gratter là-dedans. Oui, si on a des raisons de croire qu'il y a quelque chose qui se passe, là, on peut faire une dénonciation, soit à la police, les crimes... Mais ça, il faut avoir des bonnes données. Si on est un protecteur nommé en vertu des régimes de protection sous surveillance du curateur public, bien là, c'est là qu'on va inviter les gens à faire leur dénonciation. Nous, dans nos bureaux, évidemment, on est pris un peu avec le secret professionnel, mais là, maintenant, on est en train d'élargir pour être capable de faire des signalements.
Ça, c'est une très, très bonne nouvelle.
Là, c'est à voir. Je ne suis pas familier avec la nouvelle loi, mais il semblerait que là, on a une ouverture. Et pour nous, c'est énorme.
Espérons que ça les protège plus tard. Merci beaucoup, monsieur.
C'était mon plaisir.
Rappelons qu'il existe toutes sortes de maltraitances et qu'on peut en savoir davantage. Il y a Aide Abus Aîné. Alors, le numéro de téléphone qu'on peut joindre pour parler et faire part de notre problématique, c'est le 1-888-489-2287. Aussi, il y a un site web qu'on peut repérer en écrivant Google Aide Abus Aîné. Ou encore, on peut s'informer auprès des coordonnateurs régionaux spécialisés en matière de lutte contre la maltraitance sur le site du ministère de la Famille et des Aînés, www.mfa.gouv.qc.ca. Merci Jean Lambert.
Merci Jean Lambert.
C'est mon plaisir.
C'est vraiment passionnant.
Quand la lumière s'éteindra dans mon regard, que je partirai de ce monde tôt ou tard. Quand le vide s'installera, que mon silence te le criera. Ne va pas croire à mon absence, je serai là. Je n'enverrai pas de signe qui pourrait te faire peur. Il n'y aura pas de bruits étranges ni courants d'air. Aucune odeur de lilas, pas de caresse du bout des doigts. Mais ne doute pas de ma présence, je serai là, juste là, je serai là. Je serai là, juste là, je serai là. Quand tu suivras les traces que j'ai laissées au large, et que fleurira la joie semée sur mon passage, alors chaque jour à travers toi, je pourrai vivre. L'oubli et la distance, je me glisserai tout doucement dans tes rêves pour que puisse émerger des souvenirs qui apaisent. Et quand un jour tu viendras, je t'accueillerai dans mes bras. Si la mort n'est qu'une autre naissance, je serai là, juste là, je serai là. Je serai là, juste là, je serai là.
Nous sommes avec Benoît Racette, notre chroniqueur sociopop.
Bonjour.
Bonjour. Alors, vous allez nous parler de repas en famille. C'est une préoccupation de notre invité Geneviève Rioux.
C'est une préoccupation de beaucoup de gens, ça c'est certain. Manger en famille, ça veut dire quelque chose. Bonjour Geneviève d'ailleurs.
Bonjour. Moi, des fois, je m'arrange pour faire une entrée. Je n'avais pas prévu faire une entrée, oui. Mais c'est trop le fun. Là. Il y a comme les jeunes sont là, puis ils ont amené de leurs amis, puis il fait beau, on est sur la terrasse. OK, on va faire un petit bocconcini basilic pour en entrée, juste pour étirer. Puis après ça, on ira chercher une crème glacée peut-être là, pour étirer jusqu'à 9-10 heures.
Mais c'est ça, c'est un plaisir à partager. Mais ça, c'est ce qu'on se dit entre nous. Mais moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter de manière assez populaire quelques recherches sociologiques, anthropologiques, qui devraient peut-être nous inspirer, là, puis dont on devrait parler peut-être autour d'un bon repas puis d'un bon vin. Hein, Dr. Barbel?
Ah, bonne idée!
Donc, la première étude que j'avais envie dont j'avais envie de vous parler, c'est l'alimentation des enfants du point de vue de leurs parents. En fait, il s'agit de Louis Mathieu, qui a proposé une étude anthropologique ou ethnographique. Donc, pour les gens là, qui ne savent pas ethnographique, on étudie un milieu de vie, là, pas seulement une société, là, on étudie un milieu en tant que tel, en faisant parler les gens, en allant vraiment sur le terrain. Alors lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rencontré 20 familles. Et il a essayé de voir comment ça se vivait, les repas, qu'est-ce qu'on en disait aussi des repas. Et là, t'es censé me demander s'il y a une question d'argent.
Ben oui, est-ce que c'est une chronique sociopop ou sociopathe?
Oui, c'est ça. Ça dépend, faut voir. Mais il y a une question d'argent là-dedans. On s'en doute. Tu sais, Simone, bien sûr, était sensible au fait qu'il y avait des familles défavorisées, voulait les soutenir particulièrement.
Elle avait elle-même 7 enfants.
Et elle-même était défavorisée, il faut l'avouer, le syndicalisme à l'époque payait pas très bien, ni le militantisme. Mais cet auteur-là, Louis Mathieu, il a vraiment trouvé une différence entre les familles issues davantage favorisées et celles davantage défavorisées. Et c'est super intéressant. En fait, ce qui remarque chez les familles plus favorisées, c'est qu'on se colle beaucoup à ce que les experts disent. C'est-à-dire, quand il y a un nutritionniste à la télé ou des experts qu'on entend dans les médias, dans la littérature, tout ça, on a tendance à développer une alimentation qui se rapproche des normes, au fond. Alors que ce qu'a observé dans les familles moins favorisées, c'est que l'éducation alimentaire, c'est un peu de maintenir le modèle transmis par les générations ascendantes. Donc, manger différemment du père ou de la mère...
C'est comme trahir un peu la famille.
Oui, c'est, ça, voilà. C'est comme une trahison. Alors, c'est peut-être pour ça, au-delà du fait qu'économiquement, c'est pas toujours facile de joindre les deux bouts puis d'acheter ce qu'il y a sur la table. Ce qu'on remarque, c'est dans les familles défavorisées, c'est peut-être plus difficile de mieux écouter le nutritionniste, certains experts. Puis c'est normal parce qu'on est sceptique parfois par rapport à ces gens-là, bon, qui sont peut-être un peu plus bourgeois, on va le dire comme ça. Bon, non, ben, je le dis. Il y a une recension de littérature qui est formidable. Pour ceux qui nous écoutent, une recension de littérature, ça veut dire qu'on fait le point, on regarde tout ce qui s'est fait scientifiquement sur une question donnée et on essaie de faire ressortir ce qui est encore bon aujourd'hui. Donc, c'est une recension décrite sur le repas familial qui a été fait par Martin Latreille et Françoise Romaine Ouellette de l'INRS. Il y a plein de choses fabuleuses là-dedans, je vous assure. Là, ça, on est là pour faire une chronique populaire, mais allez plonger votre nez là-dedans. Entre autres, on parle de toute cette dimension rituelle du repas. Hein? Je pense que tout le monde est d'accord avec ça, mais même au sens étymologique, le terme repas, saviez-vous que ça vient de ré, donc pour répétition, retour, et paste pour pastrer, paître, c'est-à-dire repaître. Alors, c'est comme l'idée de répétition dans l'idée même du mot repas, il y a déjà un rituel. C'est-tu beau?
Okay. Oui.
Ça, c'est la première idée. Les bienfaits du repas familial, il y en a plusieurs. Il y a des gens qui se sont vraiment penchés sur la question. Entre autres, la plus vieille étude, une des plus vieilles études de ce recension décrit-là, c'est celle par Brossard en 1943. Il notait que c'était lors des repas, surtout le soir, que la famille se sentait le plus à l'aise, aussi bien physiquement que psychologiquement. Et c'est pas souvent dans la journée où on est disponible comme ça pour échanger, pour vivre des choses. Alors, c'est pour ça que le repas du soir est important. Mais bon, peut-être qu'à l'époque, les pères étaient plus autoritaires et disaient « Ah oui, mange! » En tout cas, c'était pas toujours l'accent.
Il n'y avait pas les téléphones.
Oui.
Mais ça, il n'y avait pas de tablette.
Mais c'est vrai, c'est ça.
On a d'autres défis quand même.
Voilà, il y a d'autres défis. Il y a d'autres agents stresseurs autour de la table aujourd'hui qui n'existaient pas en 43. Je vous le concède. C'est pour ça qu'on peut regarder des recherches plus tôt. En fait, il y a des recherches plus tard là, qui disaient, plus anciennes, qui disaient que le repas familial tel qu'on le vit, c'était une tradition bourgeoise. C'est ça, j'ai déjà dit. Mais j'ai un peu trop insisté là-dessus. Puis là, on dirait qu'il
y a des familles nombreuses où il fallait demander le droit de parler.
Tout à fait,
mes sûr. Grands-parents, il y avait 9 enfants dans la famille de ma mère. Alors, ça ne parlait pas tout en même temps. Il fallait que le papa décide qui allait parler.
Ben voilà. Puis ça reproduisait évidemment la manière d'hierarchie sociale.
Le passage de toute la culture aussi, quand même, dans le repas.
Oui, mais ça, c'est important de le dire, effectivement. Puis pas seulement par les gestes. Ouais. Donc, une sociologie pourrait nous parler des gestes, des apprentissages qu'on fait un peu plus par mimétisme, mais c'était surtout le lieu de la conversation. Oui. On parle... Puis au point où Snow et Bells, en 2006, ont réussi à identifier des effets bénéfiques sur le développement des aptitudes cognitives et linguistiques des enfants. En fait, être à table nous permettait d'apprendre des mots, de mieux converser. J'avais envie de terminer en point d'orgue parce que c'est pas juste joli, hein, les repas. On nous rappelle, entre autres... Ça, c'est léger marketing. C'est moins sexy... Comme
on est revenu sur terre.
C'est plus récent, 2014.
On écoute.
Mais le repas familial, c'est un moment qui n'est pas toujours agréable, le rappelle-t-on. Donc, c'est ce qui précède ça. Il faut faire les courses, il faut établir le menu, préparer. Tout ça peut être des agences
stressantes. Quand on va faire les courses, puis on a faim, là, on arrive. Moi, mes enfants, là, c'était automatique, surtout quand ils étaient petits. Là. S'ils me voyaient, j'étais comme impatiente. Ils disaient, « Maman, mange quelque chose. » Je mange un fruit, puis j'étais correct. C'est eux qui me le rappelaient.
Ben, ça, c'est ça. Les enfants nous aident à apprendre des choses quand même. Il ne faut pas oublier ça. Mais eux, ce qu'ils disent dans cette étude-là, c'est que 21% des mères mariées, Je ne sais pas pourquoi on parle de mères mariées. En tout cas, ben oui, c'est léger marketing.
Ils ont le droit.
Les mères mariées...
Ils savent tout, ils savent tout.
Trouvaient que c'était l'activité la plus stressante de la journée.
De faire le repas du
de
soir.
De faire le repas, de vivre le repas.
Peut-être à cause justement de l'importance du repas du soir.
Ben, ça dépend aussi. C'est quand il faut aller chercher des enfants à la garderie, c'est puis ça. À l'école. Puis là, il y a des travaux partout. Là, effectivement, on arrive déjà, c'est très lourd.
Absolument.
C'est pour ça que les vacances, hein, on les voit arriver, là, le soleil d'hier et tout, ça va faire du bien tout
ben,
le monde.
Les vacances, c'est le lieu du pique-nique, ça pourrait aider. Ah. Peut-être plutôt que le repas du soir à l'intérieur.
Avec des assiettes en carton, s'il vous plaît.
Non.
Comme ça,
avec des
fini les tâches ménagères.
OK, mais c'est pas très bon pour
non,
l'environnement.
Certainement.
Ceci dit, il faut quand même rappeler en tout dernier lieu que ben, manger avec nos bébelles, c'est risqué. Hein. Il faudrait peut-être se redonner le goût de manger ensemble, sans écran, entre nous. Ça, il y a beaucoup d'études qui le démontrent, mais je pense qu'on valide ça de manière empirique tous les jours. On le vérifie. On le sait que peut-être se parler en face les uns des autres au moment du repas, ça devrait être important. Au-delà des recherches.
Ben, merci beaucoup, Benoît Racette, chroniqueur sociopop.
Yeah!
Vous écoutez, c'est bon pour la santé.
S'est éloigné. J'ai oublié. immense qui m'a fait renier d'où je suis. Oublier toutes mes folies, tous mes excès, tous mes soucis. Quand je suis revenu, tu m'as repris comme si j'étais jamais parti. Ça
Alors, nous sommes dans notre segment livre. Chaque semaine, on parle d'un livre de santé. Alors, aujourd'hui, on parle d'un livre d'Alzheimer. C'est aux éditions Annika Parence Éditeur. C'est dans la collection « Comprendre la maladie, ses traitements ». C'est fait par deux médecins, Dr Fadi Massoud, qui est gériatre au Centre hospitalier de l'Université de Montréal et à l'Université universitaire de Montréal, le CHUM. Et c'est aussi coécrit par le Dr Alain Robillard, neurologue, professeur adjoint clinique de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal et co-directeur de la clinique de la mémoire. Au Canada, on estime à peu près 500 000 le nombre de personnes atteintes de maladies Alzheimer ou de démence apparentée. Avec le vieillissement de la population, l'Organisation mondiale de la santé prévoit que le nombre de cas devrait doubler dans moins d'ici 2030 et va s'élever à 2050. Va tripler. Alors, la maladie d'Alzheimer arrive au second rang après le cancer. C'est quand même pas pire. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre-là, c'est que souvent, quand on a une problématique, l'Alzheimer, le cancer, il y a des médecins qui se penchent dans les hôpitaux et qui écrivent des livres pour venir en aide aux proches. Des gens qui sont aux prises avec une maladie. Et dans ce livre-là, ben, il y a plein de choses qui m'ont interpellée. Il y a à peu près 25 questions qui sont ciblées et qui les médecins répondent aux patients, ou pas aux patients, mais répondent aux proches, aux aidants naturels de la famille. Et vraiment des questions comme quelle est la différence entre l'Alzheimer puis la démence? Est-ce que la maladie d'Alzheimer est fréquente? Pourquoi la mémoire diminue? Comment débute la maladie? Quels sont les symptômes? Il y a plein de questions comme ça, ils y répondent. Mais il y a deux choses que j'aimerais voir avec vous, docteur Baruel. Personnellement, je vous pose la question, est-ce que la maladie d'Alzheimer est héréditaire? Et deuxièmement, est-ce que la maladie d'Alzheimer est liée à l'âge?
La maladie d'Alzheimer n'est pas héréditaire, a priori. Rien ne dit justement qu'elle est héréditaire, sauf une forme de la maladie qui est très précoce et qui commence à 50 ans. Qui dure 5 ans. Personnellement,
Fulgurant.
J'ai une amie qui l'a eu et qui l'a eu, mais c'est une forme familiale. Le reste commence à partir de 65 ans, mais ça n'est pas du tout héréditaire.
Parce que dans le livre, il dit que c'est seulement 5%. C'est l'hérédité. Et seulement
à 5%.
C'est
la forme familiale.
C'est un hasard statistique.
C'est un hasard statistique pour le moment. Il n'y a pas de règles qu'on arrive à vraiment déterminer. Les 5%, je répète, les 5%, c'est la forme familiale.
Ah oui.
Donc les autres, c'est au hasard?
Les autres, c'est un peu au hasard, oui.
Et c'est des plaques.
Plaques amyloïdes, des dépôts amyloïdes. Et puis qui tue progressivement les neurones.
C'est ça. Ouais. Mais il y a des avancées, hein, quand même, on a entendu récemment.
Il y a des avancées qui sont pour le moment... Malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Et c'est vrai que ce qu'il faut faire, c'est stimuler, beaucoup stimuler. Et puis, il y a quand même probablement une sorte de protection qui est due à une augmentation du nombre de connexions entre les neurones lorsque les patients étaient à une période d'activité. C'est-à-dire qu'il a fallu, le fait d'augmenter le nombre de ces connexions neuronales permet d'avoir en réserve suffisamment de neurones pour se permettre d'en perdre quelques-uns.
Ah bon. Donc concrètement, il faut lire, il faut jouer au bridge, il faut
faire
quoi ?
C'est ça, exactement. Il faut lire, il faut jouer au bridge, il faut faire des mots croisés, il faut voir des amis, discuter politique, discuter je ne sais quoi,
lire
philosophie.
Lire les journaux.
Lire les journaux. Il faut s'activer, il ne faut surtout pas rester passif devant la télé.
Docteur Baruel, vous savez que je suis une grande malade imaginaire. Et dans le livre, j'ai lu qu'on estime une personne sur 11 qui risque d'avoir la maladie d'Alzheimer à 65 ans.
Oui.
Et à 85 ans, c'est une personne sur 4, je vais jamais m'en sortir.
Alors, à 85 ans, une personne sur 4, mais le problème, c'est qu'on a une espérance de vie qui n'est quand même pas tellement plus loin que 85 ans, mettons même 90 ans. Mais c'est vrai que le temps de l'évolution, c'est pas forcément dramatique. Alors, en plus, ça peut très bien se confondre à 85 ans. Le début d'un Alzheimer peut se confondre avec tout simplement l'âge. C'est-à-dire qu'on perd la mémoire quand même, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'on ne sait plus très bien où sont ses lunettes, même si on les a sur le nez, et où on va chercher quelque chose au bout de l'appartement.
Mais on reconnaît ses proches et puis
on reconnaît ses proches. Mais on peut aussi perdre quand même un petit peu de mémoire immédiate. Alors, quand même, ça c'est assez fréquent. Mais toute la mémoire en général marche très bien quand même. On ne se perd pas dans la rue. Parce qu'en fait, c'est ça l'un des critères aussi, c'est qu'on ne sait plus où on est quand on sort, on ne sait plus où on est, on appelle, on est perdu.
Merci beaucoup. Alors, je répète le titre du livre, La maladie d'Alzheimer. C'est écrit par le docteur Fadi Massoud et le docteur Alain Robillard. Comprendre la maladie et ses traitements, c'est édité par Annika Parence, éditeur, disponible encore en magasin.
Mais ne vous inquiétez pas, hein. Vous ne l'avez pas, la maladie d'Alzheimer. Sugar.
Nous sommes en présence de Geneviève Rioux qui a comme préoccupation le sucre, qui fait attention à son alimentation et à celle de ses proches. Et on va faire ensemble une montée de sucre.
Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez du sucre, docteur Baruel? Est-ce que c'est nocif pour la santé?
Non. Le sucre à petite dose ou à bonne dose, du moins, principalement, en fait, c'est la bonne dose. C'est bon pour la santé. Le 25 grammes de sucre par jour, c'est bon pour la santé. C'est ce qu'on mangeait au début du XXe siècle. C'est à peu près la dose et c'est ce que demande de manger l'OMS. Actuellement, on est à 200 grammes. On est à 200 grammes. Pourquoi ? Parce que le sucre, il y en a, on en met partout. Partout. Dans le ketchup. On en met dans les hamburgeois.
Burger, hamburger.
Ben non, on dit hamburgeois ici.
Ah bon ?
Oui, oui. on en met absolument dans... On en met dans le pain. On en rajoute dans le pain. On en rajoute absolument dans tout. Et en plus, vous avez toujours des gens qui se promènent avec des barres chocolatées sous prétexte qu'ils ont absolument
avec
besoin
la guimauve
de nourriture.
Dessus.
Mais pourquoi faire ? Pourquoi est-ce qu'on se promène avec des barres chocolatées en plein Montréal ? À quoi ça sert ? Ça sert à rien. Parce qu'en fait, on a toutes nos réserves de sucre dans le foie. Le foie est rempli de sucre sous forme de glycogène. Et si par hasard, on a besoin de sucre, eh bien, il y a une hormone qui s'appelle le glucagon et qui va chercher le sucre dans le foie et qui va le remettre en circulation. Qu'est-ce qu'on a besoin de se supplémenter en permanence avec ce sucre ? C'est une question de marketing. Et après, on se retrouve avec du diabète.
Voilà.
Donc, c'est quand même formidable. On nous fait manger du sucre et ensuite, les laboratoires sont là pour nous soigner notre diabète. C'est quand même quelque chose qui ne va pas du tout ensemble.
Non, c'est ça. Moi, je me sens comme une génération flouée, c'est-à-dire qu'on nous a dit que le danger, c'était le beurre. Alors là, on a eu la margarine. Mais le sucre, par exemple, il y avait des pépites de chocolat partout.
Oui.
Et tout ça. C'était une surabondance de sucre. C'était vraiment fou. Alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, le beurre à petite dose sur des rôtis, tout ça,
c'est
un bon aliment.
Mais bien sûr.
Et que les sucres, en fait, c'est les fructoses, glucose. En fait, c'est surtout ceux-là qui sont les plus meurtriers.
C'est vrai, non. Est-ce que c'est vrai?
N'importe quel sucre. Tous les sucres sont meurtriers. Le miel aussi. Mais oui. En fait, avec le diabète, on se retrouve avec des problèmes cardiovasculaires avec tous les sucres.
Mais Geneviève Rioux vient de soulever un point. Est-ce qu'on devrait prendre plus un Coke qu'un Diet Coke? Parce que c'est vrai que c'est nocif.
Diet Coke est très mauvais aussi.
Il vaut mieux prendre un verre d'eau. Parce que le Diet Coke, c'est quelque chose
d'eau.
Manger un fruit, un verre d'eau.
C'est beaucoup mieux. Parce que le Diet Coke, l'aspartame et tous les faux sucres, on ne sait pas très bien ce que ça a donné. La saccharine, pendant des années, des dizaines d'années, des trentaines d'années, on a donné de la saccharine. Et on sait très bien, et on le savait, que ça donnait un cancer du tube digestif, du grêle. Mais on le sait, ça. Et pourtant, on continuait de le faire. Donc, il vaut mieux, plutôt que de prendre un Diet Coke, il vaut mieux prendre un verre d'eau et puis
Et même
fruit.
Les jus de fruits, c'est pas très bien. Hein?
Alors, les jus de fruits,
parce que
ça,
c'est super très
concentré.
Bonne,
très bonne,
hein?
très bonne,
Nous, on en prend plus le matin,
chose.
Le fameux jus d'orange, c'est fini.
C'est le qui s'appelle trop de sucre, là. Hein?
Oui,
c'est
oui,
ça,
oui,
là, c'est la marque qui s'appelle Tropi, trop de sucre.
Il vaut mieux prendre un fruit.
Non, ce qu'il faut faire, c'est prendre un jus de fruit. On peut prendre un jus de fruit, en effet, mais un jus de fruit frais. Et même manger la pulpe. Parce que, ça, en plus, ça fait un double effet. C'est que ça donne quelque chose, quand même un peu de sucre, mais pas énormément, mais on en a besoin. Et ça donne aussi des aliments pour le microbiote. Les fibres sont un aliment pour le microbiote.
Notre ami, le microbiote.
Et en plus, alors, quand on mange
l'éléphant dans la pièce, le microbiote.
Un microbiote, c'est quoi ? Nous rappeler, c'est quoi
Le microbiote, c'est tous les germes et tous les microbes, nos amis, qui sont dans notre tube digestif, qui permettent de casser les molécules d'aliments qui sont indigestibles sinon. C'est eux qui font le travail de la digestion en réalité. C'est pas
et avant de vous quitter, là. Le chocolat. Moi, je suis très chocolat noir, mais chocolat.
Ouais. D'abord, il ne faut pas en manger des kilos. Et puis, mais si c'est du chocolat noir et qui fait 85%, qui n'est pas trop sucré, ou 70%.
Ils nous ont dit
70%, pourquoi pas ? Non, mais pourquoi pas ? C'est toujours une question de dose.
Docteur Barnouel, mettez-vous à l'eau, 85% de chocolat.
Ça
va aller, là ?
Mais enfin, je n'ai jamais dit qu'il était interdit de manger du chocolat. C'est quoi, là, ça ?
Mais vous avez dit 85. Nous, on
moi,
met la barre à
70. Je suis incapable de couper, c'est le chocolat. Je pense que j'ai une addiction.
Oui, mais si c'est une petite addiction, c'est bien.
Je me contrôle. Tout le monde,
oui. Du rabat ça c'est pour mon mal de dos.
Du rabat ça c'est pour mon mal de dos.
Du rapide tu sais pour mon rhume de cerveau. Oh.
Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux. Si tu
du rabitus imbermorum de cerveau.
Du rabitus imbermorum de cerveau.
De l'antiflogestine pour mon lumbago. Oh!
Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade.
Un peu de ginseng pour ma libido.
Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur le béton.
Et puis du ginseng pour ma libido.
Et puis du ginseng pour ma libido.
Puis du Viagra pour me remonter le moineau.
Oh! Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston. Pour marmotter le moineau.
De la nicorette parce que je fume ben trop.
Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur le béton.
Parce que je fume ben trop.
De la nicorette parce que je fume ben trop.
Avec tout ça dans le corps.
Avec tout ça dans le corps.
Je mourrai pas si tôt.
Oh! Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur le piton.
Okay.
Y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur le piton.
Alors, on arrive à la fin de cette émission presque. Geneviève Rioux, comment vous avez vécu cette expérience? Qu'est-ce qui vous a touché particulièrement à travers le moment qu'on vient de passer ensemble?
C'est qu'on est passé de sujet grave à sujet un peu plus ludique et léger, puis c'est ça la vie. Alors, je pense que l'émission, elle a été à votre image, en fait. Vous êtes capable de passer du questionnant au rassurant, puis on rigole.
On a bien rigolé, c'est
oui.
vrai.
Bien rigolé.
Puis là, on a le docteur Baruel avec nous. Alors, quelle serait la question que vous n'avez jamais osé poser à un médecin? Et puisque le docteur Baruel est des nôtres, qu'est-ce que vous lui demanderez?
Docteur Baruel, êtes-vous tanné d'entendre les gens se plaindre dans votre cabinet?
J'adore ça, cette question. Ça, c'est... En fait, j'adore ça. J'aime beaucoup les entendre se plaindre. Les entendre se plaindre parce qu'on peut les soigner.
Et vous êtes comme un détective, peut-être?
Oui, c'est exactement ça. Et c'est exactement ça. En fait, pour déterminer, pour faire un diagnostic, c'est très amusant parce que c'est souvent une enquête presque policière. Mm-hmm. C'est très amusant, c'est très intéressant. Donc, on peut les soigner, mais je dirais que, justement, ils se plaignent malheureusement trop des maux corporels, alors qu'en réalité, c'est la souffrance morale qui est souvent la plus importante.
Ah oui.
Et ils n'osent pas le dire. Mm-hmm. Et souvent, ils le disent au dernier moment, au moment où on est en train d'ouvrir la porte pour qu'ils partent. Et c'est là qu'ils disent « Ah, à propos, j'ai oublié de vous dire. » Et c'est ça qui était en réalité le vrai sujet. Ce n'était pas le mal de tête, le mal de ventre, ou le ceci ou le cela. C'était le vrai problème de leur existence, un problème moral.
Et est-ce que c'est déchirant alors quand ils repartent et puis finalement un médecin, ça peut, c'est pas un psychologue là.
C'est déchirant parce qu'on a l'impression d'être passé à côté. Et on se dit, ben, peut-être qu'il va revenir, ou s'il a rendez-vous, un autre rendez-vous, on en parlera la prochaine fois. Mais c'est vrai qu'on a l'impression d'être passé à côté de quelque chose, et ça, ça fait mal.
Mais docteur Baruel, il y a des vraiment... je comprends la souffrance morale, mais si on a un cancer ou si on a vraiment des maladies incurables, parfois, c'est pas juste un problème moral, il y a vraiment un problème physique.
Ah oui, bien sûr. Mais tous les problèmes physiques, justement, on cherche à les soigner, bien sûr. Mais on a finalement pas mal de solutions pour les soigner. Et puis, c'est pas tabou, on en parle, on peut le dire. On le découvre, on recherche, on fait des check-ups, et ça, on le trouve. Donc on... Non, ce que je veux dire, c'est que c'est tout ce qui est derrière cette souffrance physique dont on ne parle pas parce que c'est tabou.
Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous irriter dans un patient ou une patiente? Quelque chose qui...
Il y a une chose qui est très irritante au début, quand on est jeune médecin, puis après on comprend, c'est les patients qui savent tout.
Ah, oui.
Mais on se dit, c'est pas grave, c'est en fait, ils cherchent simplement à être au niveau de quelque chose, ils cherchent à rentrer en contact. Rares sont les patients qui sont comme ça et qui ne cherchent pas à rentrer en contact. Sinon, les plus irritants, ce sont ceux qui sont en retard.
Ah oui, ça, bah oui. Mais oui, mais oui.
Donc en parlant de questions, n'oubliez pas que, gens du public, vous pouvez nous adresser des questions santé par courriel à canalm@commercialvusezvoix.com ou même par le biais des réseaux sociaux.
Merci beaucoup, Geneviève Rioux.
Ça m'a fait tellement plaisir d'être avec vous.
Nous tenons à remercier aussi Lise Lalande, directrice générale de Société Alzheimer Laval, et Jean Lambert, notaire et ex-président de la Chambre des notaires du Québec. Cette émission n'aurait pas été possible sans Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Christiane Campagna aux communications et Catherine Bourderon et Benoît Rassette à la recherche et à la réalisation.
Qu'on se le dise, profiter des moments en famille, c'est réconfortant. Ici Catherine Bourderon
et Dr François Baruel.
C'est bon pour la santé.